Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle et bonsoir à toutes et à tous. RTL Soir, c'est parti jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier. À la une ce soir, Kherson, ville clé de la guerre dans cette région annexée par Moscou et que les forces ukrainiennes tentent de reprendre. Les autorités pro-russes appellent désormais tous les civils à quitter immédiatement la ville. La bataille de Kherson est sans doute très proche et dans ce contexte, les envoyés spéciaux d'RTL arrivent sur place. Nous retrouverons Émilie Beaujard dans un instant. Dans l'actualité de ce samedi soir, le scénario du pire évité pour ce début des vacances de la Toussaint avec 13% des stations en manque d'au moins un carburant. La situation à la pompe s'est donc nettement améliorée. Résultat, des départs sans galère pour faire le plein. Mais du côté des professionnels du tourisme, cette première semaine de vacances va rester impactée. On ira dans les Pyrénées-Orientales où on enregistre au moins 20% de baisse par rapport à l'an dernier. Édouard Philippe placé sous le statut de témoin assisté par la Cour de justice de la République pour la gestion gouvernementale de l'épidémie de Covid-19. Décision prise après son audition de mardi dernier, audition pourtant restée secrète jusqu'à ce matin. En Bretagne, des recherches toujours vaines depuis dimanche dernier après la disparition d'un jeune pêcheur de 20 ans dans la baie de Morlaix. Son sac à dos a été retrouvé en mer. En Chine, la fin du congrès du Parti communiste, marquée par une terrible humiliation du prédécesseur de Xi Jinping, l'ex-président Hu Jintao, forcé à quitter les lieux malgré lui et devant les caméras. Explication officielle et bien peu crédible vu les images, il ne se sentait pas bien. Dans ce journal également, les Français et la sobriété numérique pour diminuer la consommation d'énergie et l'empreinte carbone. Sommes-nous prêts aujourd'hui à limiter ou modifier nos usages des smartphones et ordinateurs? C'est une étude d'Odoxa pour Oracle qui montre une véritable prise de conscience, un changement des comportements et on va en parler ce soir avec la patronne de l'Institut Odoxa. Le foot, la 12e journée de Ligue 1 depuis 17h, Montpellier reçoit Lyon, c'est la mi-temps, on en est où Eric Martin?
1-0 pour l'Olympique Lyonnais, un but de Oussem Aouar sur une passe de capitaine Alexandre Lacazette, le jeu qui va reprendre dans quelques instants.
Merci Eric, on vous retrouve dans 20 minutes. Ce soir, 21h, Marseille-Lens, à suivre dans RTL Foot. Avant cela, donc, on ira au stade Vélodrome. Le quintet de Saint-Cloud, 6, 13, 3, 15 et 11. Et puis le temps, bonsoir Valérie Quintin, les orages reviennent demain.
Bonsoir Vincent, la matinée sera encore relativement calme, mais deux dégradations nous intéressent dans le courant de la journée. D'abord celle qui arrivera d'Espagne et de Méditerranée, qui va concerner tout le flanc est du pays, avec de gros orages dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche notamment. Et puis une autre dégradation orageuse qui, elle, arrivera par le nord-ouest, dès le matin d'ailleurs sur la pointe bretonne. Elle gagnera ensuite la Normandie et les Pays de Loire. Au final, les Hauts-de-France, le bassin parisien et en glissant jusqu'au Pays Basque seront à peu près protégés avec encore des éclaircies, mais de gros orages y arriveront bien entendu dans la soirée. Côté température, ça ne bouge pas. 9 à 21 degrés au réveil de Nancy à Biarritz. 16 à 30 degrés dans l'après-midi des Côtes d'Armor jusqu'à la Corse. Comptez 19 degrés à Dunkerque, 22 degrés dans la capitale, 23 degrés à Saint-Étienne, 25 pour Bordeaux, 27 à Marseille.
RTL Soir. Avec Vincent Parisot.
En Ukraine, plus d'un million de foyers sont ce soir privés d'électricité après des frappes russes sur des infrastructures énergétiques. Vladimir Zelensky accuse d'ailleurs Moscou de terroriser les Ukrainiens. 36 tirs de roquettes la nuit dernière. Mais maintenant, tous les regards sont tournés vers Kherson, la principale ville d'une région annexée par Moscou et en passe d'être reprise par les forces ukrainiennes. Les autorités pro-russes ont d'ailleurs appelé ce matin tous les civils à quitter immédiatement la ville. Et c'est dans ce contexte que les envoyés spéciaux d'RTL arrivent sur place. Vous les retrouverez dès demain matin dans la matinale. Et actuellement, Émilie Beaujard, accompagnée de Jonathan Griveau, est sur la route de Kherson, donc, en provenance de la Moldavie, au sud-ouest de l'Ukraine. Et voici ses toutes premières impressions à l'approche de Kherson.
Oui, nous nous trouvons actuellement sur les routes au nord de Kherson, à plusieurs dizaines de kilomètres de la ligne de front. Et étonnamment, les routes sont très chargées car elles sont devenues les seules praticables du sud de l'Ukraine. C'est par là, par exemple, que les Ukrainiens fuient le pays, par là que l'armée se ravitaille, mais aussi et surtout par là que le blé passe depuis la fermeture de la majorité des ports. On croise donc des milliers de camions remplis de grains, de céréales à destination de l'Europe. Beaucoup passent par cette route pour rejoindre la Roumanie. D'autres vont vers les ports ukrainiens encore opérationnels. Les routes qui mènent vers Kherson, elles, sont toutes fermées. Seuls les véhicules militaires engagés dans la contre-offensive peuvent passer. Une contre-offensive dont l'avancée est tenue secrète depuis plusieurs jours. L'armée ukrainienne a demandé aux soldats de ne plus divulguer ni leur avancée ni leur position. En attendant, les forces d'occupation russes continuent leur retrait de Kherson en prévision d'une attaque des Ukrainiens pour reprendre cette ville clé.
Émilie Bojard, accompagnée de Jonathan Griveaux, les envoyés spéciaux d'RTL en Ukraine, dans la région de Kherson, et vous les retrouverez bien sûr demain dans la matinale d'RTL.
RTL Soir.
Après deux semaines de galère pour de nombreux automobilistes confrontés aux effets de la grève dans les raffineries, eh bien le pire a été évité pour les premiers vacanciers de la Toussaint. Certes, la grève a été reconduite au dépôt de carburant Total Énergie de Fézin dans le Rhône, où certains salariés d'ailleurs sont réquisitionnés. Le blocage continue aussi à la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique, mais globalement, à la pompe, la situation s'est nettement améliorée. Selon le gouvernement, 13% des stations sont en manque de gazole ou d'essence, mais toutes les stations d'autoroute ou presque fonctionnent normalement. Bonne nouvelle donc en ce premier jour de vacances scolaires, mais pour de nombreux professionnels du tourisme, le mal est fait. Et dans les Pyrénées-Orientales, ils font grise mine. Valentin Larquier.
À Bagnoul-sur-Mer, dans son hôtel à quelques mètres du port, Jacques Olmaux a affiché une feuille sur la baie vitrée. Chambre disponible. Les vacances commencent, mais pas beaucoup de touristes, freinés par le manque d'essence dans les stations-service.
On n'est pas complet, loin de l'être. Là, cette semaine, j'ai eu 5 annulations, des gens qui venaient sur 4-5 jours, parce que les trains, c'est la grève, parce qu'ils ont peur que l'essence, alors qu'on n'a jamais eu un si beau temps.
Les réservations des hôtels dans les Pyrénées-Orientales baissent de 35% par rapport à la même période l'année dernière. À Collioure, Jérôme Svoboda n'a quasiment personne dans ses chambres.
Actuellement, on est à environ 5% de taux d'occupation en salle. Sachant que l'année dernière, on a eu un taux d'occupation à 70%. Ça m'inquiète très fortement. On a déjà énormément baissé nos tarifs. On a fait 15% sur les chambres par rapport aux autres années. Mais même en faisant ça, c'est pas pour ça qu'on a le monde.
L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du département note un début de déblocage depuis jeudi. Ils espèrent surtout revoir les vacanciers la semaine prochaine.
Reportage dans les Pyrénées-Orientales de Valentin Larquier. Le gouvernement se dit conscient du problème dans les services de pédiatrie. La ministre déléguée de la Santé reconnaît que les urgences pédiatriques sont saturées. Elle répond ainsi à cette lettre ouverte de milliers de soignants publiée ce matin dans Le Parisien. Il dénonce une saturation des services en raison notamment de l'épidémie de bronchiolite particulièrement sévère. Le gouvernement compte sur la solidarité entre les hôpitaux et la médecine de ville. C'est une surprise car on attendait son audition après-demain lundi, mais on a appris qu'Édouard Philippe a en fait été entendu dans le plus grand secret mardi dernier par la Cour de justice de la République. Et à l'issue de cette audition restée secrète, il a donc été placé sous le statut de témoin assisté pour la gestion par son gouvernement de la pandémie de Covid-19. L'ancien Premier ministre échappe donc à la mise en examen, en tout cas pour l'instant, Anne Le Hénaff.
Oui, témoin assisté, c'est un statut intermédiaire, moins grave si l'on peut dire que la mise en examen. Mais l'ancien Premier ministre reste mis en cause et devra s'expliquer au sujet de plaintes déposées pour mise en danger de la vie d'autrui et pour abstention volontaire de combattre un sinistre. On lui reproche d'avoir, comme ses prédécesseurs, mal géré le stock des masques qui ont très cruellement manqué, notamment aux soignants, au début de la pandémie en mars 2020, et aussi d'avoir réagi tardivement malgré les premières alertes qui sont arrivées dès le mois de janvier. Le gouvernement a par exemple maintenu le premier tour des élections municipales en mars et le Premier ministre n'a activé la cellule interministérielle de crise que le 17 mars. Dans une interview au Parisien il y a quelques jours, Édouard Philippe dit qu'il conteste vigoureusement toutes ces accusations.
Anne Le Hénaff, la demande de la famille de Lola d'arrêter d'utiliser le nom et l'image de leur enfant à des fins politiques n'a donc pas été entendue par tout le monde. Et après le rassemblement hommage apolitique d'hier à Foucreuil dans le Pas-de-Calais, eh bien ce samedi a été marqué par plusieurs rassemblements organisés par Reconquête, la formation d'Éric Zemmour ou d'autres groupes d'extrême droite. Cela a été le cas à Lille ou encore à Rennes. Les obsèques de Lola sont prévues lundi, en début d'après-midi à Lillers, près de Béthune. Et puis en Bretagne, ça fait 6 jours maintenant qu'un jeune pêcheur de 20 ans, Erwan, a disparu de manière inexplicable. Des recherches ont été menées toute la semaine avec des moyens très importants, sans résultat, si ce n'est son sac à dos retrouvé en mer. Un appel à témoins a été lancé. Et d'ailleurs, les recherches sont encore poursuivies aujourd'hui, Nicolas Bobby.
Sa maman Aurélie Clément serre très fort dans ses mains un petit chien en peluche, le doudou préféré d'Erwan Martin, 1m80, sportif accompli, bon nageur, qu'elle espère retrouver vivant.
Ça va faire presque 8 jours demain qu'il ne donne plus signe de vie, donc on a toujours espoir.
Je sais pas, est-ce qu'il a glissé, est-ce qu'on sait pas, on a juste retrouvé son sac à dos et sa voiture.
Un PC de recherche est installé par des proches dans le camping de Lokirek avec des cartes d'état-major. Depuis mardi, la famille, des bénévoles, des copains fouillent les plages, des avions, des drones sur survole les nombreux rochers. Cet après-midi, son demi-frère, Maxime Coquillard, participait aux recherches dans des rochers glissants.
C'est très dangereux, franchement. Si tu tombes, une vague qui te repousse contre un rocher, enfin voilà quoi. Donc quand tu vois qu'il est parti avec son matériel de pêche, tu te dis waouh, parce que nous, avec nos deux mains libres, c'est déjà compliqué. Tant qu'on trouve rien, on a toujours un petit espoir, et des fois non. Faut savoir être réaliste aussi, donc on est partagé entre les deux idées.
Au moment de sa disparition, Erwan Martin portait un sweat gris avec l'inscription braise, un jean et des baskets.
Nicolas Bobby en Bretagne pour RTL. Il est 18h10, une courte pause et dans un instant, une scène surréaliste au congrès du PC chinois. Et puis on va parler sobriété numérique avec la patronne de l'Institut Odoxa qui vient de réaliser une enquête.
Vincent Parisot. RTL Soir. RTL Soir avec Vincent Parisot.
À Pékin, le congrès du Parti communiste chinois touche à sa fin. Sans surprise, Xi Jinping sera reconduit au poste de secrétaire général. Procédure qui doit permettre à l'homme fort de Pékin de décrocher en mars prochain un troisième mandat présidentiel de 5 ans, ce qui sera totalement inédit puisqu'auparavant et avant la réforme constitutionnelle de 2018, réforme qu'il a lui-même faite, eh bien le nombre de mandats était limité à 2. Mais la scène qui tourne en boucle depuis ce matin, filmé par les caméras du monde entier, ressemble à une terrible humiliation pour son prédécesseur, Hu Jintao, pourtant installé à ses côtés à sa tribune. Il a été visiblement évacué contre son gré, Julien Fautra.
Oui, l'incident est silencieux, sans cri, sans fracas et pourtant si spectaculaire. Un homme apparaît à l'écran derrière Hu Jintao, le tire par le bras pour qu'il se lève. L'ancien président ne résiste pas longtemps. Les dirigeants les plus importants du pays sont assis sur cette rangée. Aucun ne bouge. Tous regardent devant, figés comme des statues et comme si rien ne se passait. Hu Jintao tente un mot à Xi Jinping, l'actuel président, qu'il renvoie d'un coup de menton. Hu Jintao disparaît sous bonne escorte. Humilié, la presse a assisté à tout. Elle venait d'être invitée à entrer dans l'hémicycle. La chaise restera vide. Rayée des photos, rayée des images, l'ancien président chinois. La scène a disparu des réseaux sociaux en Chine. La chaise vide n'apparaît que très rarement ensuite lors de la retransmission. Des diplomates évoquent une purge, celle dont les partis communistes ont le secret. Une version officielle a été publiée, mais elle est peu conforme à ce que j'ai vu. Hu Jintao ne se sentait pas bien, fermez les guillemets. Lui incarne une version libérale du parti, Xi Jinping la version dure. C'est celle qui semble brutalement s'imposer aujourd'hui.
Julien Fautra. Emmanuel Macron sera demain et lundi à Rome pour voir le pape François et pour prononcer un discours sur la paix sur fond de conflit en Ukraine. Le président français, qui doit aussi déjeuner lundi avec son homologue italien, fait savoir qu'il n'exclut pas l'idée d'une rencontre non prévue avec la nouvelle première ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni. Il serait ainsi le premier dirigeant étranger à la rencontrer, alors qu'officiellement Paris, tout comme Berlin et Madrid d'ailleurs, ont gardé le silence depuis sa prestation de serment ce matin. Cela dit, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle l'a félicité, disant espérer une coopération constructive avec elle. Et Joe Biden l'a aussi félicité en disant avoir hâte de poursuivre avec l'Italie le travail en faveur de l'Ukraine. La pollution numérique et la flambée des prix de l'énergie nous poussent-elles aujourd'hui à modifier nos usages du smartphone, du streaming, de l'ordinateur? C'est une étude Odoxa pour Oracle, la première d'une série de l'Observatoire de la tech responsable. Et on en parle ce soir sur RTL avec la directrice générale de l'Institut Odoxa. Bonsoir Céline Brac.
Bonsoir Vincent Parisot.
Merci d'être avec nous en direct sur RTL. Alors cette étude, elle montre tout d'abord une prise de conscience.
Oui, parce qu'avec Oracle, on voulait absolument aller sur ce sujet de la sobriété numérique qui est vraiment un sujet d'actualité, puisqu'on parle beaucoup de sobriété énergétique. Et c'est vrai que quand on posait la question il y a un an et demi aux Français, qu'on leur parlait de sobriété numérique, la réponse c'était Kézako. On avait 30% de Français seulement qui en avaient déjà entendu parler. Aujourd'hui, 58% de Français nous disent oui, on sait ce qu'est la sobriété numérique. Et on a les trois quarts des gens qui savent que la consommation du numérique entraîne des émissions de gaz à effet de serre de manière assez importante. Et c'est vrai, et ça a tendance à progresser. Donc déjà, dans les têtes, il y a cette idée que son comportement avec les outils numériques au quotidien, il a un impact sur l'environnement.
Une prise de conscience, c'est même une réaction. Ils sont, je crois, les deux tiers, ces Français, à dire qu'ils font désormais attention à leur empreinte carbone numérique.
Oui, c'est 26 points de plus qu'en mai 2021. Donc ouais. Vous voyez, c'est quand même C'est quand même très très fort. On a rarement des tendances aussi fortes sur des périodes aussi courtes. Mmh. Parce qu'entre-temps, évidemment, il y a eu toutes les perturbations climatiques des Français, et on a vu dans d'autres études que ça avait vraiment un impact, que c'était un changement dans les comportements. Et puis évidemment, parce que les gens font attention à leur consommation d'énergie. Ils ont envie de faire des économies et ils savent que ça peut passer de cette manière-là. Donc, il y a plein de petits gestes au quotidien, parce que l'idée de cet observatoire avec Oracle, c'est aussi aller dans les comportements un peu dans le détail. Mmh. Et on voit aujourd'hui que les Français sont beaucoup plus disposés à limiter leur envoi d'email. On a 78% des Français qui le disent. À éteindre sa box ou son boîtier TV lorsqu'on ne l'utilise pas. Il y a encore un an ou deux ans, personne ne faisait ça. Alors qu'aujourd'hui, ça commence à entrer dans les mœurs. Et puis de plus en plus, alors même si là c'est encore minoritaire, beaucoup de Français se disent on va utiliser des smartphones, des ordinateurs reconditionnés pour éviter d'acheter tout le temps, encore et encore, des objets numériques neufs.
Une véritable évolution des comportements que vous avez pu mesurer dans cette enquête. Et ces efforts, à leurs yeux, les Français, vont-ils vraiment avoir un impact? Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils disent « oui, je le fais et c'est utile »
C'est peut-être le petit bémol de cette enquête. C'est-à-dire qu'ils disent « oui, je le fais et c'est un peu utile ». C'est-à-dire que 57% pensent que ça a un impact faible, en réalité, sur la pollution numérique et la crise énergétique actuelle. Et on a seulement 30% qui nous disent « ça permettra d'avoir un impact fort ». Alors, c'est aussi parce qu'ils sont réalistes, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, qu'ils ne sont pas les seuls sur cette planète, les Français. Maintenant, c'est vrai que les acteurs publics, mais aussi les acteurs, les industriels, ont intérêt à faire savoir que ils peuvent, les Français, faire plein de petits gestes au quotidien qui permettent de limiter cette consommation numérique. Et puis aussi, ces industriels développer des outils qui permettent de facilement faire des économies.
Merci beaucoup. Céline Braque, directrice générale de l'Institut Odoxa, merci d'être intervenue ce soir en direct sur RTL. Et puis, amateurs d'espace, astronomes amateurs, si un réveil au milieu de la nuit ne vous fait pas peur, sachez-le, la NASA a besoin de vous. Et cette mission, si vous l'acceptez, que vous vous trouvez dans une bande située entre le Pays Basque et la Belgique, disons, et que vous disposez d'un télescope, va permettre d'en savoir plus sur un astéroïde baptisé Eurybate. Il va passer cette nuit vers 4h du matin, ou même à 4h précisément, devant une étoile, l'occulter pendant quelques secondes, et la NASA fait appel aux bonnes volontés chez les astronomes amateurs français, opération relayée par Thomas Pesquet, menée par l'Association française d'astronomie Marie Grant, et la co-organisatrice.
En fait, on appelle toute personne à se positionner aux alentours et dedans cette bande d'occultation. Et avec toutes ces personnes-là et toutes les informations qu'elles vont récolter, c'est-à-dire déjà, j'ai vu l'étoile s'éteindre ou je ne l'ai pas vu s'éteindre, ça va nous donner des informations sur la trajectoire d'Eurybate. Et deux, le temps de l'occultation qui va être étudié et récupéré par les astronomes, on va en savoir beaucoup plus sur la forme de l'astéroïde. Et ça va aider les chercheurs en fait à affiner la trajectoire de la sonde spatiale Lucie pour pouvoir réussir la mission. On ne s'attendait pas à autant de participants, mais on voit bien que lorsqu'on a l'occasion de regarder le ciel et en plus d'apporter sa pierre à la construction des connaissances scientifiques, ça motive les gens et on est très content de ça.
Voilà, ils seront des centaines d'astronomes donc à se réveiller un peu avant 4h cette nuit. C'était Marie Grant, la co-organisatrice de cet événement pour l'Association française d'astronomie. Allez, une courte pause et puis dans un instant, tout le sport et notamment le foot. À tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir avec Vincent Parisot.
Et le foot avec la 12e journée de Ligue 1, Montpellier-Lyon depuis 17h. On vous a quitté tout à l'heure, l'OL menait 1-0, c'est toujours le cas, Eric Martin?
Et oui, tout à fait, 1-0 toujours pour l'Olympique Lyonnais après 64 minutes de jeu. Une première période qui a été bien maîtrisée par les Lyonnais, qui ont donc marqué par l'intermédiaire d'Aouar, bien servi dans la surface de réparation par Alexandre Lacazette. Lacazette qui a failli marquer à deux reprises, notamment d'une somptueuse reprise de volée qui a été repoussée par le gardien de Montpellier, le gardien montpelliérain qui s'est blessé au niveau de la cheville, qui est sorti juste avant la pause. Ça a un petit peu revigoré hein, l'équipe de Montpellier qui a eu deux belles occasions, notamment avec Nicolas Kozza qui a vu notamment sa tête passer à gauche des buts du gardien lyonnais. Et ce premier quart d'heure de la première, de la seconde période est assez équilibré. Donc toujours 1-0 pour Lyon après 65 minutes.
Merci Eric, on vous retrouve dans Refait le match après ce journal. Ce soir, 21h, match au sommet entre deux des poursuivants du PSG, des concurrents directs pour l'Europe. Marseille, Lens. L'ambiance doit commencer à monter boulevard Michelet autour du Vélodrome, Hugo Hamelin.
Eh bien, vous les entendez derrière moi. Moi, je suis installé sur les marges du stade Vélodrome comme des centaines de supporters marseillais qui s'échauffent également. Les chants, les premiers fumigènes. Et chose surprenante, il y a également des supporters lensois qui sont avec leur maillot sang et or qui s'affichent alors que c'est plutôt déconseillé d'habitude. Mais ce sont deux clubs amis. Et puis Marseille, n'oublie pas que le RC Lens a permis indirectement à l'OM de se qualifier pour la dernière Ligue des Champions en fin de saison dernière. Il y a un gros enjeu sportif pour ce match. Je suis avec Ayoub, un supporter de l'OM qui est à côté de moi. Deux équipes à la lutte pour le podium, à quoi on peut s'attendre, Ayoub?
Alors déjà on peut s'attendre à un très beau match ce soir avec un bon enjeu car c'est le troisième contre le quatrième. Il y a la deuxième place en jeu pour Marseille si on gagne le match ce soir. Et surtout qu'on reste sur deux défaites d'affilée en Ligue 1, une défaite ce soir serait très mal pour nous.
Et surtout Marseille a récupéré le meilleur joueur de Lens la saison dernière, Jonathan Clauss, il joue dans les rangs marseillais ce soir. Donc Stade Vélodrome qui affichera complet ce soir, mis à part le bas du virage sud, les commandos ultra qui sont suspendus pour utilisation de fumigène lors de la dernière rencontre.
Merci OM Lens, coup d'envoi 21h à suivre dans RTL Foot. Sachez qu'en Ligue 2, Saint-Etienne qui est resté sur 3 défaites et 1 nul s'est relancé en allant s'imposer 1-0 à Amiens. Et après la passion du foot, la passion d'un métier.
Mon métier, ma passion. Armel Lévy.
Bonsoir Armel.
Bonsoir.
Et vous nous présentez ce soir Mohamed Zouaghi. Il a créé il y a 10 ans l'entreprise CHB, c'est à Valenton dans le Val-de-Marne, entreprise spécialisée dans le ravalement des façades et des toitures. Et vous l'avez donc rencontré sur un échafaudage à Paris avec l'un de ses 20 salariés.
Je suis ancien dans les bâtiments. Mon père, il était 35 ans conducteur de travaux avec Bouygues. Et j'aime bien être dans les bâtiments.
Vous faites des ravalements de façades?
Ravalements façades traditionnelles. On a de l'art sur des façades. Et on fait des toitures en zinc. Quand on monte sur une toiture d'un immeuble, on voit tout un Paris en toiture en zinc. C'est un gros marché. Donc aujourd'hui, on a les JO qui rapprochent. C'est aussi avec les gens courageux de bâtiments qui travaillent là. C'est grâce à eux qu'on va voir une belle image aussi.
Étienne?
C'est Étienne, spécialité pour la pierre et sur les façades haussmanniennes.
Étienne, vous êtes tailleur de pierre. Vous avez commencé il y a 21 ans chez les Compagnons. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier?
C'est donner vie à une matière, en fait. Quand on fait dans la restauration des monuments historiques, ce qui est vieux, en perdition, on redonne vie à l'ouvrage, à ce que les anciens ont fait, pour que ça ne soit pas perdu, pour qu'on puisse toujours voir la beauté de Paris. Et ces bâtiments anciens, c'est la référence de Paris à la base. Et en plus de ça, il y a aussi des créations personnelles qui viennent d'une façade que vous faites vous-même à zéro. Et vous créez vous-même des moulures selon ce que l'architecte des monuments historiques demande.
Quelle qualité il faut pour exercer votre métier?
Déjà, la qualité qu'il faut avoir, c'est la patience. Et l'autre qualité, c'est l'écoute. L'écoute des anciens et de ceux qui vous montrent le boulot, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Et même moi, c'est ce qui m'a forgé. Et j'ai écouté les anciens et la persévérance.
Quelle est votre plus belle satisfaction?
C'est le sourire que les clients me renvoient en disant que c'est très beau. Franchement, ce que vous avez fait, on ne s'attendait pas à ça. Et j'ai eu des remerciements, même des architectes, des cartes qui m'envoient, des clients, en disant que vous avez fait un truc formidable. C'est la satisfaction des clients d'abord. Ça peut que vous donner l'envie de continuer, en fait. C'est ça le plus important.
Ah, c'est vrai que c'est important, le sourire des clients, hein, quand le travail est bien fait. Merci Armel, à la semaine prochaine.